La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce l'amour qui inspire les écrivains ou la littérature qui a inventé l'amour ? Pierre Le Pape a répondu hier que pour lui, ce sont bien les romanciers qui ont fixé les règles de l'attachement, comme Honoré d'Urfé avec son Astrée ou Guillaume de Lorris avec le roman de la Rose. Plus tard, Goethe, Benjamin Constant ou Flaubert raconteront que ce sont les pratiques de lecture qui ont changé la manière d'aimer, quand on chérit moins sa moitié, que l'amour en tant que tel. Demain, nous raconterons la découverte de la sensualité dans les pas de Lady Chatterley, qui fait, tout au long du roman de D.H. Lawrence, le chemin vers la libération de son corps. Nous serons pour ce faire avec Catherine Millet. Enfin, jeudi, l'amour selon Shakespeare et Stendhal est au programme de l'émission, mais également des concours des classes préparatoires scientifiques. Nous parlerons du songe, d'une nuit d'été, ainsi que de la chartreuse de Parme. Ce sera avec Frédéric Sayer et Emmanuel Caquet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de Tristan et Iseut, nous sommes avec vous, Christiane Marquelonisia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des grandes figures de la linguistique historique du français, auteur notamment de La langue française au XIVe et XVe siècle, publié chez Nathan en 1997, et vous avez dirigé dans la bibliothèque de la Pléiade, c'était en 1995, le volume Tristan et Iseut, les premières versions européennes, un livre somme sur cette belle histoire d'amour dans le Moyen-Âge des XIIe et XIIIe siècles. On va parler de ce texte avec vous, mais d'abord une question, comment est-ce qu'on passe de la linguistique à cette histoire d'amour fou entre Tristan et Iseut?
De mon point de vue, ce sont peut-être deux amours fous, mais en
vous
tout
êtes
cas,
amoureuse follement de la linguistique.
De la langue en tout cas, et faute d'être auteur, pourquoi pas autrement. Mais surtout quand on fait de l'histoire des langues, on est obligé de se confronter au texte. On n'a plus de locuteur natif sous la main.
Ah oui.
Plus rien. Pas de traces enregistrées avant la fin du 19e siècle. Que faire? Et donc les textes, c'est notre seul recours. Et les textes, jusque vers le 16e siècle, ça passe par les manuscrits. Et Tristan et Iseut était un exemple extraordinaire parce que c'est un roman, on va en parler plus en détail, mais c'est un roman, je disais c'était, mais c'est un roman qui a eu une durée de vie telle qu'elle, dans ses dernières versions les plus anciennes, très limitée à 2 siècles quasiment. Les manuscrits s'étagent sur la fin du 12e siècle, début du 13e siècle pour l'étranger en quelque sorte, et c'est tout. Après on passe à une autre version. Donc c'est vraiment un cas d'école, et pour les gens qui, amoureux de ce texte, ont voulu plonger là-dedans et retrouver l'origine, comme l'a fait par exemple le grand médiéviste Bédier, Joseph Bédier, en 1900, il a donné une somme qui a imprégné toute la littérature par la suite, mais c'est une somme qu'il a refabriquée à partir de, et bien en fait, une douzaine de versions différentes, qui toutes sont en morceaux, sur le nombre de versions de Tristan et Iseut, version ancienne, qui reste, il n'y en a finalement qu'une qui donne une version entière, un récit entier. Les autres, ce sont des récits morcelés.
Et notamment la plus célèbre, la version de Béroul.
Oui.
Il lui manque le début et la fin, mais pas qu'un
Absolument.
Peu du début et qu'un peu de la fin. Il lui
beaucoup.
Manque quand même beaucoup d'un côté comme de l'autre.
Un médiéviste a essayé de faire une simulation. Il pense qu'il devait y avoir autour de 12 000, 13 000 vers. Il n'en reste même pas 5 000. On peut imaginer.
Donc les versions les plus anciennes, c'est le dernier tiers du 12e siècle.
Oui.
Elles ont d'abord été écrites en français, et puis ensuite, finalement, c'est une histoire européenne, l'histoire de Tristan et Iseut. On en trouve des versions allemandes, des versions norvégiennes, des versions anglaises.
Oui, italiennes, etc. Oui, tout
Donc
à fait.
Donc c'est une histoire européenne, mais qui a pour origine, je dirais davantage que la France, la Bretagne et le monde celte.
Oui, la Bretagne, la Grande-Bretagne peut-être même. Une hypothèse a été formulée, vous savez, à cette époque-là, il y avait en Angleterre une nouvelle dynastie royale, hein, les Plantagenets, et le mari, enfin plutôt la femme de Henri de Plantagenet, du roi Henri II, était Aliénor d'Aquitaine. Donc quelqu'un de très sensibilisé, fille d'un très grand troubadour, et très sensibilisé à la littérature. On sait que c'est, les romans français ont d'abord été écrits, les plus anciens, ont d'abord été écrits sur l'île, disons, pas sur le continent.
Et il y a dans les thématiques quelque chose de celte pour vous? On retrouve cette origine géographique ou est-ce qu'on est au-delà finalement? Parce que quand on parle d'amour, l'amour en Bretagne, en Grande-Bretagne, n'est sans doute pas différent de l'amour près de la Méditerranée, quoique.
Les deux morceaux de votre question sont... On peut dire oui, on peut répondre par oui. Oui, au sens où la topographie vient d'Angleterre, puisque Iseu est fille du roi d'Irlande. Elle va épouser Marc, qui est le roi de Cornouailles, ou chez Thomas, le roi d'Angleterre. Tristan vient de Bretagne. Donc c'est vraiment un périmètre très, très, très celte, n'est-ce pas? D'autre part, on est sûr que... Et puis les noms également, mais enfin ça, je laisse passer. Mais on est sûr que toute l'histoire n'était pas dans des légendes celtiques. On les a possédées, on en a beaucoup encore qui nous sont parvenus. Il y a des éléments, effectivement. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Mais les plus profonds spécialistes de la question disent bien que il ne suffit pas d'accumuler comme cela plusieurs éléments pour faire quelque chose qui en fait est nouveau. Donc il y a eu un phénomène qui s'est passé, et on sait que quelques versions ont été perdues. On en est sûr pour deux. Le grand romancier Chrétien de Troyes, qui écrivait à la même époque, dit dans un prologue d'un de ses romans, qu'il a écrit, entre autres, un roman de d'Iseu la Blonde, et de Tristan et d'Iseu la Blonde. Donc, quelqu'un d'autre, un autre texte, le roman de Renard, évoque un certain La Chèvre qui aurait aussi fait un roman de Tristan, mais on n'en garde rien. Et étant donné ce qu'il nous est parvenu des textes les plus fondamentaux, Tristan de Thomas, Tristan de Béroul, on peut se dire qu'il était certainement facile d'avoir perdu beaucoup de choses.
Oui. Bon, il y a aussi des origines orientales, enfin on ne peut pas toutes les signaler.
Oui, ça c'est plus discuté.
C'est plus discuté. Oui. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ce texte-là, il a été un petit peu oublié.
Oui.
Et puis il a réapparu au XIXe siècle.
Oui.
Est-ce que c'est parce que précisément le XIXe siècle romantique, c'est le siècle d'une certaine forme d'amour, cet amour justement romantique, et que du coup, Tristan et Iseu, en soi, est un texte qui reprend les grandes caractéristiques de l'amour romantique tel qu'il sera imaginé au XIXe.
Oui, qui les annonce d'une certaine façon, oui, oui. Plusieurs auteurs allemands, surtout anglais, italiens d'Annunzio. Et puis, ça aboutit finalement au Tristan et Isolde de Wagner en 1860 à peu près.
Alors, quelles caractéristiques, par exemple? Qu'est-ce qui résonne si bien avec le XIXe siècle romantique dans cette histoire?
Certainement pas le côté un peu lisse de ce qu'on appelait déjà à cette époque-là l'amour courtois. Justement, c'était en rupture avec cela, mais on y reviendra certainement. Donc, quelque chose qui était extrêmement brutal, extrêmement violent, et qui, tout de suite, liait l'amour et la mort. Et d'ailleurs, Bédier ne s'était pas trompé, qui commence tout simplement en disant que c'est une très belle histoire d'amour et de mort. Jamais on a dit cela de l'amour courtois ou d'un amour plus physique, etc. Donc, c'est la première fois que cela apparaît à ce point. Et c'est très brutal, ces textes, quand on les lit en détail, j'ai dû les traduire, non seulement les éditer, mais les traduire, c'est extrêmement cru parfois, c'est dur.
Sur le côté violent, justement.
Ah, le côté violent, oui.
Mais ça, c'est parce que le 19e a préféré garder ces versions-là. Parce qu'en effet, il y a eu d'autres versions qui étaient un petit peu arthurianisées,
elle
comme on pourrait
continue,
dire.
Voilà, elles continuent à... Courtoisées. Voilà, en courtoisées, elles continuent.
Voilà.
Mais justement, elles sont plus lisses, plus douces, d'une certaine façon. Donc, ce qui a été conservé, vous avez raison, c'est ce qui est le plus violent.
Thank you.
L'air de la mort d'Isolde, interprété ici par Jessie Norman, Christiane Marchello-Nisia. Parlons un petit peu des personnages de cette belle histoire. Tristan d'abord, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'on connaît de son histoire familiale, de ses parents? Ce n'est pas sans importance évidemment.
Absolument. C'est par Eilard d'Auberg qui a donné la seule version à la fin du XIIe siècle, aussi c'est presque contemporain de Thomas et de Béroul, qui donne la seule version in extenso de la vie entière. Eh bien, c'est un fils de seigneur, certainement, mais qui a eu un destin extrêmement dur dès l'enfance, puisqu'il est le fils d'un père qui va mourir et d'une mère qui va mourir. Mmh. Il va se retrouver orphelin aussitôt. Et son père, avant de mourir, sa mère, en gros, était la sœur du roi Marc. Mais elle a commis un péché. Elle a conçu le jeune Tristan, avec donc le père, Ivalin, sans les liens du mariage. Et donc, le jeune enfant était illégitime. Et son oncle ne l'a pas connu. Donc, ils se sont réfugiés un petit peu à l'écart, etc. Et puis, le père, puis la mère sont morts.
Et vous direz que cette illégitimité le poursuit finalement jusqu'à la fin ?
Absolument. C'est sans doute, on l'a posé si fort au début, sans doute parce que tout au long, il y a de l'illégitimité dans sa vie.
Donc c'est le neveu du roi Marc qui va finir par le reconnaître.
Mais ça, il le saura plus tard, oui.
Et donc ces deux-là vont se rencontrer. Le roi Marc se voit promis, Isolde.
Oui.
Et par un stratagème dont on va parler, il va s'opérer une espèce de triangulation entre ces trois personnages. Je crois qu'il faut d'abord commencer par écouter un extrait de Tristan et Isolde, et puis vous allez nous en parler un petit peu après, parce que c'est un extrait capital qui raconte l'histoire du philtre. Or, le philtre, c'est le cœur de cette histoire.
Ami, que viens-tu quérir, séant, hors d'haleine comme je te vois ? Le forestier le prit à l'écart et tout bas lui dit : J'ai vu la reine et Tristan. Ils dormaient, j'ai pris peur. En quel lieu ? Dans une hutte du Mont-Roi. Ils dorment au bras l'un de l'autre. Viens tôt, si tu veux prendre ta vengeance. Va m'attendre à l'entrée du bois, au pied de la Croix-Rouge. Ne parle à nul homme de ce que tu as vu. Je te donnerai de l'or et de l'argent, tant que tu en voudras prendre. À la Croix-Rouge, il trouva le forestier. Va devant, mène-moi vite et droit. L'ombre noire des grands arbres les enveloppe. Le roi suit l'espion. Il se fie à son épée qui jadis a frappé de beaux coups. Ah, si Tristan s'éveille, l'un des deux, Dieu sait lequel, restera mort sur la place. Enfin, le forestier dit tout bas : Roi, nous approchons. Il lui tint l'étrier et lia les rênes du cheval aux branches d'un pommier vert. Ils approchèrent encore et soudain, dans une clairière ensoleillée, virent la hutte fleurie. Le roi délace son manteau aux attaches d'or fin, le rejette et son beau corps apparaît. Il tire son épée hors de la gaine et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait, il lui fait signe de s'en retourner. Il pénètre, seul, sous la hutte, l'épée nue, et la brandit. Oh, quel deuil si la scène secoue! Mais il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas, et qu'une épée nue séparait leurs corps.
Une lecture par Lolé Bellon. Christiane Marchello-Nisia, où en est-on à ce moment-là de l'histoire de Tristan et Isolde ?
Assez loin. Et justement, de façon très significative, cette scène avec le roi Marc qui va, on parlera peut-être de l'interprétation des signes, mais là, qui va interpréter de façon à la fois vraie et fausse toute une série de signes.
Notamment le fait qu'il y ait l'épée entre les deux amants.
Voilà. Qu'ils soient habillés tous deux et non pas déshabillés, que leurs bouches ne se joignent pas. Ils se disent, ils ne peuvent pas être coupables. et il va leur pardonner.
Il est bon, mais, ce roi, finalement. Il veut absolument que ça se passe bien.
Il aime son neveu. Comme beaucoup de rois, il aime son neveu, fils de sa sœur. En tout cas, il aime aussi sa femme. Il veut la récupérer. Mais là, c'est en même temps, il n'en sait rien, bien sûr, mais dans le récit, on va s'en apercevoir, c'est dans le roman de Béroulle, la fin du filtre. Chez Béroulle, le filtre voit son effet cesser. Et à ce moment-là, et d'ailleurs, Iseu va être reprise par le roi, il va le suivre, et Tristan va être exilé. Mais dans le roman de Thomas, ce n'est pas le cas. Le filtre est immortel. Donc, ils vont, jusqu'à la mort, s'aimer aussi follement.
Alors, reprenons justement cette histoire du filtre. J'avais annoncé qu'on en parlerait. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est un vin herbé, un vin qui a une potion, en fait.
Une
potion magique, un filtre d'amour.
Oui, exactement. C'est une potion qui avait été préparée par la mère d'Iseu, qui était un peu sorcière, sans doute. Une Irlandaise, n'est-ce pas ? Qu'il avait fabriquée pour que Iseu et celui à qui elle était promise, le roi Marc, deviennent amoureux très fortement tout de suite, pour faciliter ce mariage. Voilà. Pas de chance, ils étaient sur le bateau, enfin Tristan donc, au prix d'un gros combat, qui l'a blessé gravement, enfin peu importe, je passe très vite là-dessus, ramène Iseu au roi Marc qui doit l'épouser. Vous savez, il y a cet épisode où le roi Marc doit se marier. Et une hirondelle lui apporte un cheveu d'or. Et le roi dit « Je veux la femme à qui appartient ce cheveu d'or. » Et c'est Iseu. Donc Tristan va aller chercher Iseu, va la conquérir, et la ramène non pas pour lui, mais pour son oncle. Et sur le bateau qui les ramène, à un moment donné, le temps est calme.
Il fait très chaud.
Ils ont soif. Et une servante leur donne pour boire ce vin herbé préparé pour Iseu et Marc. Et à partir de ce moment-là, ils sont frappés d'amour et ils consomment leur union tout de suite.
Ce qui est très choquant, on le verra par la suite. Mais alors ce filtre, il a une caractéristique quand même, c'est qu'il est fait pour durer 3 années.
Oui.
Seulement 3 années. Vous l'avez dit, c'est pour faciliter finalement les premiers temps du mariage.
Oui. Après, bon...
Et donc, ça, c'est ce qui se passe aussi, du coup, pour Tristan et Iseut, parce que eux, ils s'aiment, mais à un moment donné, pour eux aussi, le filtre va s'arrêter.
Oui, c'est vrai chez Béroulle, dans le roman de Béroulle. Mais même dans le roman de Béroulle, même une fois qu'ils sont séparés, ils vont quand même essayer de se retrouver. Ils s'aiment toujours. Ce n'est pas dit. On n'en parle plus. Mais ils recommencent exactement la vie d'avant. C'est-à-dire, tentant toujours de se retrouver, pourchasser, guetter, etc. Jusqu'à la mort.
Et c'est peut-être ça qui est choquant, justement. Oui. C'est que, après les 3 années, une fois que le filtre a cessé de faire son effet, un autre amour qui n'aurait pas dû surgir, pourtant demeure.
Oui, mais la logique n'est pas toujours le meilleur conseiller pour composer un roman, n'est-ce pas ? Et chez Thomas, il n'y a pas de cessation. On ne parle pas de durée du filtre. C'est Béroulle uniquement, ou plutôt d'autres versions qui sont proches de Béroulle, Eilhart. Donc là, il y a 2 versions. Disons qu'elles divergeraient un tout petit peu quand même, les versions à propos du filtre. Mais c'est l'épisode central, d'ailleurs. Et aussitôt après, il y a quelque chose, un petit épisode qui a été très célèbre et qui est devenu une rime extrêmement... C'est la rime entre la mère, l'aimer, disons, le verbe aimer, et le fait d'être amer, l'amertume. Et ça rime. Et il y a tout un petit passage qui a été retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a une 20aine d'années, dans un manuscrit, enfin dans une couverture de manuscrit, quelqu'un, un Anglais, a retrouvé, en défaisant une reliure de manuscrit, 154 vers exactement, de ce passage-là, très corrompu bien entendu, mais où on retrouve ce jeu de mots sur les 3 mots.
Mais alors quand même, cette histoire du filtre, elle me semble importante à plusieurs titres, notamment parce que c'est donc une potion magique qui rend amoureux les 2 amants. Ils ne s'aimaient pas avant. Non. En revanche, ils s'aimeront quand même après.
Oui.
Bon, ça c'est quand même intéressant, je trouve. Est-ce que cette idée que finalement l'amour, c'est du merveilleux, que l'amour relève du merveilleux, puisqu'il suffit finalement de boire un vin herbé, alors quelles sont ces herbes, on ne sait pas.
Non.
Est-ce que c'est ça aussi que fait Tristan et Iseut, c'est poser un univers merveilleux, poser l'amour finalement dans un univers merveilleux?
Certainement, et surtout le poser comme quelque chose d'immotivé, de non causé. Un jeune chevalier qui est pris d'amour courtois pour sa dame, pour la femme de son seigneur en quelque sorte, c'est toujours parce qu'elle est belle, parce qu'elle est valeureuse, parce que ceci, parce que cela. Il y a des raisons. Elle-même va l'aimer parce qu'il est vaillant, parce qu'il est beau, parce que, etc. Donc on nous explicite ça. Ici, jamais. Et une des preuves, on y reviendra peut-être, mais une des preuves, c'est que quand il passe plusieurs années dans la forêt du Mauroy, où ils ont été exclus, puisque Tristan devait être brûlé, Iseult aussi, Iseult jeté aux lépreux, elle l'a été, donnée aux lépreux pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Finalement, Tristan s'enfuit, sauve Iseult en même temps, et il se sauve dans une forêt qu'ils rendent inapprochable, tout simplement parce qu'il tue tous ceux qui s'approchent. Tristan devient un criminel, ouais. Violent, là. Eh bien, là, on nous dit qu'ils sont très maigres. Iseult, d'ailleurs, dans la scène que vous avez fait lire, quand le roi la retrouve, il va pouvoir échanger très facilement son anneau contre un autre anneau parce que l'anneau lui tombe des doigts. L'anneau qu'elle avait au moment de son mariage, il ne tient plus à son doigt. Elle est toute maigre. Et leurs habits sont des haillons. Et ils ne mangent que de la viande crue. On retourne, vous voyez, à une anticivilisation en quelque sorte, à une sauvagerie.
Mais cette idée aussi de l'amour surnaturel, j'employais tout à l'heure le mot de merveilleux, mais peut-être que le mot de surnaturel pourrait aussi être utilisé. Est-ce qu'il n'est pas là finalement pour donner une explication à ce qui est inexplicable, c'est-à-dire que deux êtres tout d'un coup se voient et sont physiquement attirés l'un par l'autre? C'est rassurant finalement de dire « Ah mais oui, ça c'est à cause du filtre d'amour ». Or, le filtre d'amour dont encore une fois on ne sait pas bien comment il est composé, il permet d'expliquer cette chose que tout un chacun, nous ne nous expliquons pas. Est-ce que c'est aussi l'un des buts, selon vous, de Tristan et Iseult?
Peut-être bien. Moi, je crois que c'est plutôt la volonté de mettre en évidence jusqu'où peut aller une autre sorte d'amour. L'amour courtois est en quelque sorte lisse, canonisé, tranquille. On en connaît les règles. On sait comment ça se termine, mal en général, ou bien, on ne sait pas. Enfin bon, mais de toute façon, peu importe à la limite, le but n'est pas l'amour en soi, c'est ce que donne la dame au jeune, ce que le jeune apporte à la dame et à son oncle. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est quelque chose, une sorte d'amour qui était tout à fait inconnue.
Mais cette idée que le désir, finalement, on ne peut pas y échapper, elle existe aussi quand même dans ce roman. Il y a une idée du destin, le filtre, c'est le destin. Personne n'y peut rien.
Ça représente le destin, tout à fait. Là, vous avez raison. C'est vraiment un symbole de ce que cela devient.
Isolde's very insightful views, going to work and suicide.
One step to the left, one step to the right, turn round, fake a smile. One step to the back, one step to the front, and then choose not to die.
Don't die, don't die.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Tristan et Iseult avec vous, Christiane Marchello-Nisia. Pour terminer sur le filtre, la question du filtre, est-ce que c'est le premier roman, la première histoire, la première légende à utiliser ce qui va devenir quand même presque un poncif de la littérature amoureuse pendant tout le Moyen-Âge, me semble-t-il, qui est cette histoire justement du filtre d'amour?
On ne le trouve pas auparavant, je crois. Et ensuite, pas vraiment non plus. Ce qui reste, c'est plutôt le résultat de ce que le filtre représente, symbolise, comme vous le disiez. C'est une sorte d'amour-passion, mais qui n'est pas que physique. Puisque il leur faut la présence de l'autre, il faut être l'un avec l'autre, et pas seulement pour des raisons physiques.
Oui.
Les deux.
Ce qui change aussi avec Tristan et Iseult par rapport au récit d'amour courtois, c'est que là, d'abord, l'amour est réalisé. Alors que dans l'amour courtois, ce qui est beau, c'est justement que l'amour n'est pas réalisé. Ou peu, moins. Enfin, en tout cas, c'est l'idéalisation de l'être aimé qui compte.
Voilà, c'est l'idéalisation et ce n'est pas effectivement le but essentiel. Mais il n'empêche qu'il y a des cas où Par exemple, quand Lancelot, dans la quête du Graal, moment où on essaie de sanctifier les chevaliers du Graal, n'est-ce pas, Lancelot est l'un des seuls à ne pas pouvoir réussir la quête du Graal, ni même voir le Graal. Et un ermite lui dit « Songe bien à ce que tu as fait dans ta vie. Tu vois pas quelque chose qui... » Et Lancelot parle des nuits entières avec des ermites et tout, et il comprend que c'est son rapport avec la reine avec la reine Guenièvre qui est en cause. Il dit « Oui, j'ai aimé la reine Guenièvre, nous nous sommes aimés, et nous avons commis un péché. » On ne sait pas ce qu'il y a dessous, mais il n'empêche que là, il y a une raison de faire que on a quelque chose de grave aussi. On ne sait pas. Ce n'est pas dit, le côté physique. Alors que dans Tristan et Iseut, et en particulier chez Thomas, c'est dit sans cesse.
Et c'est une source d'angoisse. C'est un amour qui, contrairement à, bon, mis à part certains exemples, de l'amour courtois, qui là est beaucoup plus terrible, beaucoup plus tragique dans Tristan et Iseut.
Oui. Et bon, je fais une parenthèse. Quelque chose m'a beaucoup frappée, et à un moment donné... Bon, je l'avais étudié, c'est que dans la chanson de Roland, une femme apparaît, c'est la fiancée de Roland, qui s'appelle Aude, qui est la sœur de son meilleur ami, Olivier. Et Aude est promise à Roland. Dans 4000 et quelques vers, Aude occupe peut-être 3, 4, 5 vers, pas plus, dans l'histoire. Mais vers la fin du roman, Roland vient de mourir, Charlemagne arrive auprès d'Aude et lui dit... Elle lui demande des nouvelles de celui qui lui a promis le mariage et dont elle doit devenir la père, l'égale. Mmh. Et Charlemagne lui dit « C'est d'un homme mort que tu me parles. » Et il lui explique qu'effectivement Roland est mort. Mais il ajoute aussitôt « Mais je vais t'en donner un pour le remplacer, tu verras, c'est encore mieux, c'est mon fils, Louis. Mmh. » Mmh. Et elle lui répond « Ces mots mail étaient strange. Ce mot, cette parole... » mais complètement étrangère et hostile. Étrange, c'est tout ça, au Moyen-Âge. Et elle tomberait de morte. Donc là, on a aussi quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est juste un poncif? Ou est-ce qu'on a déjà une préfiguration d'autre chose?
Nous continuerons de nous poser la question en seconde partie de cette émission, Christiane Marquelonisia. On va d'abord retrouver Georges Marcabib pour la chronique d'En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Georges Marcabib de la librairie de l'Atelier dans le 20e arrondissement de Paris est également membre du réseau Librest. Bonjour à vous Georges Marc.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un premier roman, celui de J.J. Amuro-Wilson, intitulé Les Dévastés.
Et édité aux éditions de l'Observatoire. Ce roman étonnant, ce premier roman étonnant, nous entraîne dans une histoire fantastique. Et là on va peut-être rejoindre le sujet d'aujourd'hui, Tristan et Iseut, puisque le pays est imaginaire, même si on nous parle de favela, même si on nous parle de dévaster, c'est-à-dire de laisser pour compte, ces dévastés, justement, ils sont pléthores dans ce pays imaginaire. Ils sont le rebut de la société. Et ils vont être emmenés par un nacho, un jeune homme, à moitié estropié, puisque son bras droit et sa jambe droite ne fonctionnent pas, à travers la ville pour y s'installer dans une tour étonnante de 60 étages et pour occuper cette tour, pour l'habiter, parce que eux-mêmes, sinon, vivaient dans des maisons en carton. Et on rentre dans une aventure étonnante parce que cette tour va être une espèce d'arche de Noé qui va permettre à assez dévasté, assez laissé pour compte, de refaire société, de reconstituer une société civile et civilisée, avec la création d'une boulangerie, avec la création d'un salon de beauté, avec des écoles et des classes où l'apprentissage de la langue, notamment, et de l'écriture va être essentiel. Évidemment, plein d'aventures vont arriver là-dessus. Un déluge phénoménal pendant des semaines. Le propriétaire de cette tour qui veut récupérer cette tour parce que même s'il ne l'occupait pas, il se dit que c'est pas possible que des dévastés l'occupent. Et donc, c'est toute cette épopée un petit peu extraordinaire qui nous est contée là. Et c'est vraiment très étonnant sur le regard de ce qu'est le monde aujourd'hui que nous raconte là Wilson.
Voilà, pour les dévaster. Puis, comme en écho, disons, à ce premier roman, vous vouliez évoquer aussi celui de Léo Henry, L'autre côté. Cette fois, c'est chez Rivage, Georges Marc.
Alors là, Léo Henry, moi, je ne le connaissais pas. Il a écrit plein de livres, notamment plutôt des livres de genre, de la science-fiction. Et là, il arrive dans cette collection étonnante chez Rivage en littérature française qui, je trouve, moi, fait... notamment, rappelez-vous, j'avais parlé de Bacchante, de notre ami Minard... Et vraiment, cette collection, elle est étonnante pour ça, parce qu'elle arrive à mélanger des genres pour nous raconter, là aussi, le monde d'aujourd'hui. Alors, Léo Henry, qu'est-ce qu'il nous raconte dans L'autre côté ? Il nous situe un pays, là aussi, imaginaire, une cité-État qui s'appelle, que je retrouve, Coctepa. Dans Coctepa, c'est très casté, tout ça. Hein. Donc, en haut de caste, on a les moines qui ont tout pouvoir et qui ont notamment le pouvoir de viser l'éternité, et en dessous des castes différentes. Et Rostam, notre héros, le narrateur de cette histoire, lui fait partie d'une sous-caste, on va dire, mais pas trop en bas de l'échelle, et il a ce rôle de passeur. Et c'est quoi être un passeur à Coctepa ? Et bien, c'est faire sortir des gens qui sont malades mais qui n'ont pas le droit de se soigner puisqu'ils ne font pas partie de la caste dominante, pour échapper à la mort et éventuellement trouver refuge et les moyens de se soigner ailleurs, de l'autre côté. Mais un jour, Rostam, sa fille, tombe malade et il n'a d'autre choix que lui-même suivre la filière qu'il avait imaginée. Et là, c'est évidemment le récit et l'aventure de l'exil, de la fuite, des passeurs et de tout ce qui s'ensuit. C'est un roman hautement contemporain.
Hein, oui, on voit bien les résonances avec l'actualité.
Et en même temps, qui est avec cette tonalité comme ça, un petit peu fantastique, qui fait toujours plaisir quand on est lecteur.
Et pour terminer, encore un premier roman, Georges Marc, avec cette fois Une longue nuit mexicaine, roman d'Isabelle Meillot, publié chez Gallimard.
Mais là aussi, plutôt un roman qui va nous parler d'amour, hein, puisqu'une longue nuit mexicaine, ça va nous parler quoi ? Ça va nous parler de la valise mexicaine dans laquelle on a retrouvé les négatifs des photos de la guerre d'Espagne par Capa, Chim je vous retrouve à l'autre, Tarot. C'est-à-dire cette guerre d'Espagne qui avait quand même... mis le pied du 20e siècle dans cette guerre, dans cette horreur, dans cette déchirure entre les néo-nazis et le reste du monde, entre ceux qui croyaient en l'humanité et ceux qui avaient envie de la soumettre. Enfin bref, notre narrateur, il est mexicain et un jour, il va hériter de la part de sa cousine de cette valise mexicaine. Et là, il se dit, mais comment cette valise est tombée dans notre famille ? Et il va nous raconter l'histoire, justement, de sa famille, de sa cousine, de sa tante, qui vont, comme ça, nous faire le fil de cette valise qui atterrit dans cette famille mexicaine. C'est très étonnant, c'est très sensible, ça parle beaucoup d'amour, ouais. Et c'est très très beau.
Merci beaucoup, Georges Marc. On peut, pour en savoir plus, aller vous voir à la librairie de l'atelier du lundi au dimanche matin. Ou alors, on peut aller sur le site librest.com. Vous voulez dire un mot, peut-être, de ce site qui réunit du coup plusieurs libraires de l'Est parisien.
Mais avec plaisir. Libresse, c'est un collectif qu'on a créé il y a 10 ans, donc qui réunit aujourd'hui une dizaine de librairies dans le Grand Paris, et on met en commun nos stocks, nos lectures, nos coups de cœur, et on fait circuler les livres à travers nos librairies, c'est-à-dire que n'importe qui peut puiser dans les stocks de chacune de ces librairies pour avoir le livre dans une demi-journée dans la librairie de son choix. Voilà. Donc voilà, on est très content de mettre en commun nos efforts pour que la littérature puisse continuer à exister auprès de nos lecteurs.
Puis il y a aussi un agenda sur le site avec toutes les rencontres que vous organisez. Les uns et les autres. Merci Georges Marc. À bientôt. This is an impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love. And flames combust if flames would be ending love. And why should two loves not agree? No. C'est toujours la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. En cette semaine de Saint-Valentin, nous nous penchons sur quelques grands romans d'amour. Et aujourd'hui sur Tristan et Iseult, avec Christiane Marquelonisia, qui a édité ce texte pour la bibliothèque de la Pléiade.
Cependant, le poison d'amour se répandait dans les veines du valet et de la pucelle. Hier ennemis, les voici aujourd'hui dru et dru. Mais le lien qui les enlace leur entrera profondément dans la chair, et jamais ils ne pourront s'en guérir. Vénus, la redoutable vénéresse, les a pris dans ses réseaux. Le dieu amour leur a décoché sa flèche mortelle. Il a planté son étendard dans leur cœur. Chacun se sent vain et las, comme étourdi par le breuvage. Ils n'osent encore échanger leurs pensées, mais quand leurs yeux qui se fuient se rencontrent dans un éclair, c'est un périlleux regard qui attise le feu qui déjà les consume. Chacun se débat en lui-même. La raison livre avec le désir une très cruelle bataille. La pucelle a pour écu la honte naturelle. La foi et l'honneur tourmentent le jeune homme. Après le dangereux regarder viendra l'accoler, puis l'octroyer. Enfin l'œuvre défendue qui détourne le regard de Dieu et ravit l'estime du monde. La première surprise est passée. Qui les avait écartés, rougissant l'un de l'autre. Leurs coudes se touchent, leurs yeux échangent d'ardents messages, leurs mains se pressent, fiévreuses.
Que s'est-il passé ?
Disent eux.
Je vous haïssais il y a une heure, et voici qu'il me semble que je ne pourrai jamais me séparer de vous.
C'est merveille, dit Tristan. Je suis tel pour vous que vous êtes pour moi. Déjà la convoitise charnelle embrase leur corps de chaleur désordonnée. La nuit est venue, le pavillon est clos et plein d'obscurité. Tout dort sur la nef qui vogue en silence. Seul le timonier veille, la main sur la barre et les yeux aux étoiles.
Avec cette histoire d'adultère, on est en pleine transgression, Christiane Marchelonisia, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Et cela commence même par avant le mariage. Donc, le mariage lui-même est une transgression, puisque Iseut est obligée, elle n'est plus vierge. Elle va demander à sa suivante, Bringuin, de la remplacer auprès de Marc pendant la première partie de la nuit d'amour, de façon à ce que Marc ne se rende pas compte que sa femme et n'est plus vierge. Et effectivement, Bringuin ne s'en remettra pas.
Il y a tout un tas de stratagèmes pour faire croire à Marc que sa femme ne le trompe pas, qu'elle lui est fidèle.
Absolument. Ça aussi, ce sont des transgressions au sens où Iseut ment. Elle enfile un nombre de mensonges assez considérable. Elle est parjure, et c'est pour cela qu'elle sera condamnée à être brûlée ou bien donnée aux lépreux. Tristan a un rapport à la vaillance guerrière qui devient bizarre. C'est-à-dire que chaque fois, depuis sa connaissance avec Iseut, et même un peu avant, chaque fois qu'il se bat, avec Iseut, ça commence avec le moment où il fait ce combat contre un monstre, l'oncle d'ailleurs d'Iseut, le Moreau, pour sauver des jeunes du royaume d'Irlande, eh bien il est blessé, empoisonné. Et chaque fois qu'il va se battre ensuite, soit il a quelque chose qui reste dans son corps et qui l'empoisonne, soit il est blessé tellement que du poison entre. Bref, ce n'est plus un vaillant guerrier. En quelque sorte, il est blessé, il guérit. Non, c'est des blessures empoisonnées qui s'ajoutent à d'autres blessures empoisonnées.
Mais alors, est-ce que toutes les versions jugent de la même façon, entre guillemets, les agissements de ce couple adultérin ? Ou est-ce que, d'une version à une autre, on cherche à mettre le lecteur plutôt de leur côté, ou au contraire, en les jugeant et en les jugeant mal?
Non, il n'y a pas de jugement, justement. Ils sont malheureux. En fait, c'est un amour qui se distingue par ce fait, c'est qu'il n'est jamais heureux.
Et pour personne?
Pour personne. Et on y reviendra peut-être, mais il y a un moment où Thomas s'amuse, enfin s'amuse, je le dis comme cela, mais disons décortique le malheur de chacun des quatre protagonistes, parce qu'au total ils sont quatre.
On peut en dire un mot, hein, si vous voulez.
Voilà. À la fin donc, disons, Iseut est reprise comme épouse par Marc. Elle a promis de rester fidèle Et Tristan est exclu. Et il décide que puisque Iseu revient auprès de Marc, c'est qu'elle doit y trouver peut-être quelque chose. Et il veut éprouver la même chose. Il se trouve qu'il rencontre, en Bretagne, une fille de roi qui s'appelle Iseu, qui est belle, et qui l'aime. Enfin, que cette femme l'aime, lui, Tristan. Il dit, ben, si je l'épousais, ça serait très bien. D'abord, son nom me rappelle quelque chose. Et puis, deuxième raison, ça va me permettre de connaître ce que Iseu ressent. C'est-à-dire... L'amour conjugal, en tout cas, est-ce qu'il y a ou non forcément entraînement du cœur, comme ils disent, avec le désir, le corps.
Oui.
Parce qu'il sait, et ça revient régulièrement chez Thomas, le roi Marc fait ce qu'il veut, d'Iseu, fait son bon, comme on dit. Il prend son plaisir avec Iseu. Mais Iseu, on nous le dit, elle ne tire pas de... Alors, à un moment donné, donc, une fois que le romancier Thomas a mis au point ce quatuor, ce n'est plus du tout une triade, comme la triade amoureuse courtoise, c'est un quatuor. Il y a donc Marc, avec Iseu la blonde, qui l'a reprise et qui vit avec lui, même s'il y a des transgressions de ses promesses. Il y a d'autre part Tristan, qui aime Iseu, etc., mais qui a épousé une autre Iseu. Donc deux Iseu et deux seigneurs. Et il commence à dérouler tout simplement. Eh bien Marc, il fait ce qu'il veut d'Iseu, il prend son plaisir. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il enrage parce qu'il n'a pas le cœur d'Iseu. Oui, dit-il, mais Iseu a deux fois plus de malheur, puisque
elle n'a ni l'un ni l'autre.
Voilà, elle a quelque chose qu'elle ne veut pas, elle n'a pas de plaisir avec Marc, qui fait ce qu'il veut d'elle, mais et elle ne pourra jamais, elle ne veut pas son amour non plus. Elle refuse tout de Marc. En revanche, ce qui lui manque, c'est Tristan, que Marc lui interdit de voir.
Bien sûr. Mais alors du coup, il y a quelque chose d'extrêmement moderne, et on comprend mieux ce que vous disiez au début de l'émission, dans le rapport, dans la manière dont le 19e siècle romantique a adoré cette histoire,
oui.
Parce que justement, dans l'incompatibilité entre l'amour et le mariage, dans la volonté aussi, comme vous le disiez à l'instant, de tester toutes ces formes d'amour, de connaître toutes ces formes d'amour, on est là dans voilà, le début de la modernité, quand même, le rapport moderne à l'amour.
On pourrait dire ça. Et effectivement, Tristan espérait un petit peu que ça se passerait bien avec Iseu au Blanchemain, et qu'il arriverait à connaître quelque chose, une espèce de bonheur, puisqu'il semblait que Iseu, la blonde, en connaissait autant auprès du roi Marc. Mais chacun des deux s'aperçoit que ce n'est pas jouable, ce n'est pas possible.
Oui.
Et au bout, finalement, même Iseu au Blanchemain, on ne l'oublie pas dans l'histoire. On nous dit, eh bien oui, elle aimerait bien avoir du plaisir de celui qu'elle aime, mais elle ne reçoit rien de lui. Et Tristan, parce qu'il aime Iseu la blonde, ne peut pas prendre son plaisir, ne peut pas consommer son mariage avec Iseu au Blanchemain.
Alors tout le monde se sent très mal,
oui.
Ça se terminera évidemment horriblement, puisque la mort est très présente.
C'est une solution.
C'est une solution radicale. S'il n'y avait pas la mort tout le temps, alors la mort, la torture, la violence, et puis la fin tragique qu'on connaît, on n'en aurait pas Tristan et Iseu. C'est ça quand même qui marque aussi ce roman-là, c'est... Le couple mort-amour.
Tout à fait. Oui, certainement. Et à la fin, c'est dit au sens où les deux... Enfin, c'est Tristan qui meurt le premier parce qu'il croit... Bon, on connaît très bien le symbole de la voile noire, la voile blanche. Sa femme, Iseu, au Blanchemain.
Ouais.
Voilà. Une fois où Tristan, une fois de plus, avait été blessé, empoisonné, etc. Il lui a dit, va chercher Iseu la blonde. Elle m'a guéri déjà plusieurs fois. Elle va me guérir une fois de plus. Enfin, plutôt, il le dit au frère de sa femme, Caerdin part et revient avec Iseu, qui effectivement va guérir Tristan. Mais Iseu, au Blanchemain, elle avait entendu cette conversation, c'est-à-dire qu'il y a aussi une transgression de sa part.
Et elle venge finalement de Tristan.
Voilà, et elle se venge lorsque Tristan lui dit, croyant qu'elle est innocente, que bon, elle va lui répondre réellement. Elle lui dit à un moment donné, je vois un bateau arriver, c'est certainement mon frère qui, etc. C'est bien son bateau. Et il lui dit, ah, dis-moi, quelle est la couleur de la voile? C'est là qu'elle lui répond, c'est une voile noire, je le vois très très bien. Et là, Tristan, dans l'une des fins du roman de Thomas, dit que ses membres craquent et qu'il meurt sur le coup.
Voilà ce que fait l'amour.
Arrive, se colle contre lui et meurt en même temps.
Entendez-vous le vent, vagues pleines venues de la mer, destin lié de jeunes gens, s'aimer, s'unir un même jour.
Des auteurs sur France Culture. Alors, Christiane Marchelonisia, au sein de la littérature du XIIe siècle, ces romans tristaniens sont traversés par la question de la culpabilité, la question du mensonge, on vient de le voir, mais paradoxalement, un petit peu pour affirmer l'innocence des personnages. Ils ne sont pas responsables de tout ce qui leur arrive, ces personnages-là. Ils sont soit victimes du filtre d'amour, soit victimes de la jalousie. Alors, est-on responsable de ça? Peut-être, ça, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, c'est aussi une histoire qui, d'une certaine manière, déresponsabilise un peu tout le monde.
On peut l'interpréter comme ça, effectivement. D'ailleurs, qui est-ce qui souhaiterait, comme Tristan, être sans cesse dévalorisé, puisqu'il est obligé de se déguiser pour aller auprès d'Iseux, la blonde, et il ne peut pas y aller en tant que chevalier, en tant que neveu du roi, donc il se déguise de façon extraordinaire en changeant son nom. Il y a même un de ses pseudonymes qui est Pro, à la place de, ou Tantris. Mais en même temps, il se déguise en lépreux, il se déguise en marchand, il se déguise en jongleur, en malade. Et à chaque fois, il arrive à parler avec son oncle qui ne le reconnaît pas, et par le langage, à faire croire qu'il est un autre. Mais à chaque fois, c'est de la dévalorisation. Et c'est, je crois, certainement ces épisodes-là qui ont poussé le sociologue Robert Castel à interpréter ça comme un roman de la désaffiliation, c'est-à-dire de la désocialisation. Autant les romans d'amour courtois sont des romans de la socialisation d'un jeune dans la société noble, on peut dire, autant là, il s'agit d'une lente désocialisation des deux protagonistes.
Donc le rôle social est toujours très important dans le roman d'amour, quoi qu'il arrive.
Ah oui, en tout cas dans les deux, oui. En tout cas, c'est peut-être aussi une de nos interprétations au XXIe siècle. Oui.
Et là, c'est toujours le rapport à la famille aussi, parce que ça se passe au sein, finalement, d'une même famille, même
Absolument.
Si c'est une famille qui ne se reconnaît, finalement, que tardivement.
Oui.
Vous avez, du coup, évoqué ces questions de langage à l'instant. Peut-être qu'on peut en dire encore un peu davantage. Il y a des jeux de mots comme ça, constants, donc celui que vous avez évoqué là. Il y en a un autre, par exemple, le jeu de mots sur jaloux et gelé, qui serait de la même origine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
ça, effectivement,
si vous avez ça en mémoire?
Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup.
C'est dans le roman poème intitulé « Le donner des amants » de Tristan Rossignol. Et il est dit que le jaloux vient de geler parce que la gelée solidifie l'eau qui auparavant coulait. C'est quand même une assez belle et savoureuse, je trouve,
étymologie. Oui, mais ça, le Moyen-Âge était génial pour inventer des étymologies assez étonnantes comme cela, parce que bien sûr, la linguistique historique n'était pas passée par là, on n'était pas au 19e, et effectivement, un cas parmi d'autres, mais c'est étonnant, oui, que cela vous ait frappé, c'est joli d'ailleurs, c'est vrai, mais il y en a encore comme ça, oui.
Mais c'est vrai que le Moyen-Âge invente un peu le dialogue amoureux, d'une certaine façon.
Oui. C'est vrai qu'on le voit se mettre en place dans les romans du XIIe siècle, d'abord comme monologue. Les personnages, on le voit dans un roman de 1150, un peu antérieur, qui s'appelle « Roman d'Énéas », c'est l'Antiquité, etc. Et on voit le personnage aîné qui se dit « Mais est-ce que j'aime ?» Dis donc, est-ce que je l'aime pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Je brûle, etc. Et de son côté, dis donc, fait le même monologue, même type de monologue. Et c'est seulement peu à peu que naîtra le dialogue vraiment. Mmh. Au début, c'est un monologue amoureux, de la même façon qu'on avait des monologues à propos de à Dieu, par exemple, quand on allait se combattre, Dieu protège-moi, enfin bon, etc.
Ça, c'est très intéressant sur l'évolution justement du roman amoureux.
Oui.
C'est-à-dire que au départ, on se considère soi-même, d'où le monologue.
Une prise de conscience, oui.
Et ensuite, c'est dans la relation avec l'autre,
oui,
qu'on va interroger l'amour.
Exactement, oui, oui. Et d'ailleurs, dès le début, dès le premier dialogue, enfin, à l'âge de Tristan et Iseult, les dialogues sont extrêmement fréquents, il n'y a plus de problème, surtout chez Thomas. Et dans le passage qu'on a récupéré, où Tristan et Iseult sont sur le bateau qui vient d'Irlande, au moment de la mer, où on a ce jeu de mots sur la mer, l'aimer et l'amertume, eh bien, Iseult dit, mais je suis malade et je ne sais pas si c'est la mer.
Oui.
Et Tristan lui dit, je suis comme vous. Donc on a sans cesse cet aller-retour et la formule qu'on trouve dans le lait du chèvrefeuille, ni vous sans moi, ni moi sans vous, c'est exactement ce genre de formule que l'on a tout au long, ces parallélismes, on les trouve.
Alors dans la Pléiade, c'est un assez gros volume tout de même,
oui,
il y a beaucoup de versions de Tristan, oui, et Iseult. Vous devez en avoir une que vous préférez, laquelle est-elle ?
Celle de Thomas me plaît beaucoup parce que les jeux sur le langage sont extraordinaires et il y a un goût pour décortiquer une espèce, enfin j'allais dire une psychologie des personnages et la façon dont ça interfère entre eux, que je trouve étonnante. Par exemple, le quatuor dont on décortique le malheur, tous aiment, les deux Iseult, Tristan et Marc, tous aiment. Tous ont à leur portée un être possiblement aimé. Et tous souffrent. Et on dit pourquoi, comment, et comment finalement c'est le malheur, la souffrance qui l'emporte sur l'amour.
Et pourquoi n'est-ce pas celui-là qui est le plus célèbre aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que dans les écoles, par exemple, on va lire celui de Béroul ?
Béroul est très joli. Il y a beaucoup plus d'épisodes qui sont concret.
Il est plus facile, vous croyez, pour les élèves, par exemple ?
Je ne sais pas. En tout cas, il forme un tout, alors que celui de Thomas, il est hachuré. On en a 6 fragments, on n'a rien de complet pour Thomas, dont la fin, on a la fin. Et pour ça, on a 10 manuscrits, 10 petits bouts qui se répètent, qui se recoupent, etc. C'est assez difficile à manier.
Alors il y en a un qui reprend Thomas, c'est la Tavola Ridonda.
Oui.
Vous pouvez nous en dire un mot ?
C'est un choix, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'au Moyen-Âge, à l'étranger, disons en Europe, on voit que cette dichotomie qui a lieu à peu près en même temps, on pense généralement que la version de Béroul est un peu antérieure à celle de Thomas, mais ce sont les médiévistes français qui ont pensé cela, on n'a pas de preuves absolues, mais on constate par exemple que Eilhard d'Auberg donne quelque chose qui
donc
est proche...
Donc la version allemande.
Voilà, une des versions allemandes, la première,
ancienne, ouais,
et qui est presque contemporaine des versions françaises, reprend la version, ou en tout cas, reprend une version commune qui serait celle de Béroul.
Ouais.
En revanche, Gottfried de Strasbourg, c'est plutôt du côté de Thomas. Donc on a assez souvent cette dichotomie qui se retrouve comme cela.
Merci beaucoup, Christiane Marc-Elonisia. Je rappelle que vous êtes donc professeur émérite à l'École normale supérieure de Lyon, linguiste et médiéviste. Puis on vous doit l'édition de la Pléiade Tristan et Iseult et plus récemment la présentation du texte par Béroul dans la collection Folio Classique des éditions Gallimard. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Jean Astérix. Demain, suite de notre série sur les romans d'amour, nous serons avec Catherine Millet qui nous parlera de L'amant de Lady Chatterley, de l'anglais D.H. Lawrence. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé pour ses lectures de poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie, le mur est tombé depuis longtemps. Volker Braun, quand même, nous l'écoutons, poète de l'ex-RDA et qui parle du choc des transformations après 1989 et des métamorphoses présentes. Paysage de fond en comble retourné. Un poème qui est « Marais Pontin ». Dans une baie de vase, je vis un couple agenouillé devant un tas de limons. Il entassait doucement à main nue, instillant aussi doucement la vase du bout de leurs doigts qui se rejoignaient. Couvert de boue, en pleine jouissance, tous deux dressaient peu à peu l'édifice, moulant ainsi une tour de tendresse que chacun ne se lassait d'admirer. Le plus touchant était-il le sérieux ou l'amour? Mais la tour grandissait si près de l'eau que chaque vague d'un coup la balayait. Qu'entreprenez-vous donc? Rien ne restera de votre art ni de votre amour, mais eux, continuez sans se laisser troubler. Paysage de fond en comble retourné, c'est le titre d'un poème. Par ici, nous nous sommes déchaînés avec nos outils. Ici, nous avons eu la main rude avec la lande qui fumait en paix. Ici, gisaient les arbres crevés, à nu, les racines sable criblées jusqu'aux veines et la poussière en fleurs aspirée, cernée. D'armatures d'acier éventraient les hameaux, écrasés par les caissons brutaux, puis d'enfer impitoyablement fouaillés. Récurer les tendres gisements, hachés menus, comblés, ratatiner ce qui était en bas vers le haut balayé, et foulés, privés d'âme, crevassés. Ici, nous nous sommes déchaînés. Et le limon fut planté d'un vert pénétrant, et de petits chênes sans peur. Et dans une montagne soudainement tendre, la route, fondue dans le bitume étincelant, le reste du trou rempli d'eau bleue et de bateaux, œil ouvert de la terre. Et venant de naître la plage blanche que nous foulons, entre nous, entre nous. Et celui-ci, La lutte des classes, qui est un poème d'aujourd'hui pour Volker Braun, à la page 122. Celle qu'on avait dit morte, la revoilà debout, déguisée en proche de la défunte au moment des obsèques. Salaire raboté pour le bien de la boîte, taux de profit en chute tendancielle. L'extrême onction chez Mansmann, on la tolère bien, se mettant le doigt dans l'œil, le temps des mascarades au fin fond des cliniques, trafiquants d'enfants et syndicalistes donneurs d'organes, toute l'histoire jusqu'à présent, etc. Corruption, quelle belle nécro, rubrique société, mort et transfiguration, puisse-t-elle crever, crever la bouche ouverte?
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisez toute la semaine des extraits de poèmes de Volker Braun.